prête à tout pour offrir un avenir à son fils. Elena, le portrait troublant d'une femme dans la Russie moderne. Un DVD et Blu-ray France Inter.
France Bleu se mobilise pour l'emploi.
FranceBleu.fr, le site pour ceux qui ont du travail à offrir et ceux qui en cherchent.
Vous êtes employeur? Vous avez un ou plusieurs postes à pourvoir? Déposez vos offres sur FranceBleu.fr.
France Bleu, votre partenaire emploi sur FranceBleu.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Et c'est l'heure de la bassie. J'y suis avec Daniel Mermet et son répondeur Bip.
Certes, il pleut depuis deux jours. On est lundi et il continue à pleuvoir. Mais, Chavez a gagné.
Salut Daniel, c'est Yvan de Châteauroux là. Je t'appelle au sujet de la victoire de Hugo Chavez là. Je dis qu'il faut faire attention quoi. Chavez c'est quand même un militaire. Hein. C'est quand même quelqu'un qui, sous couvert de socialisme et tout, il n'a pas quand même fait le socialisme. Hein. Les entreprises qu'il a créées, c'est avec les anciennes multinationales et avec l'État, donc des entreprises mixtes. Donc il y a erreur sur la marchandise. Alors moi par contre, ce qui me déçoit pas mal par rapport à ça, c'est qu'en France, par exemple comme le Parti Gauche ou Jean-Luc Mélenchon, face de ce mec-là, un mec super bien et tout, alors que c'est pas le cas du tout quand même. Hein. Alors effectivement, il a quand même fait des choses avec l'argent des hydrocarbures, hein, parce qu'il a fait quand même quelques trucs, il est obligé pour les ouvriers, les classes populaires et tout, parce que c'est quand même son soutien. Donc il a fait quand même au niveau santé, au niveau éducation, des trucs de base. Mais le reste n'est pas très très joli. Hein. Il a placé tous ses petits copains dans tout l'appareil d'État et tout. Et voilà. Allez, salut Daniel.
Oui, bonjour, je suis Jean Ortiz. J'ai sommeil, je rentre de Caracas. Quelle leçon de démocratie et de révolution ils ont reçue à Caracas. Oui. L'Amérique latine n'est pas un modèle, mais elle est un exemple, un laboratoire. Là-bas, on parle et on construit des alternatives. Oui, il y a des alternatives au capitalisme. Oui, le capitalisme n'est pas l'horizon indépassable de l'humanité. Chavez a gagné parce qu'il a changé la vie des pauvres. Il les a rendus visibles. Voilà. Alors oui, où? Ah, Chavez no se va. Palante, 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 comandante.
Amis de Lille et du Nord, bonjour. Gravelines, Penly, Golfech, Fessenheim et bien d'autres. Ce lundi 8 octobre à 20h, au Café Repère L'Imaginaire, Mireille Havé, membre des associations Environnement, Développement Alternatif et Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais, viendra nous parler du monde du nucléaire, de ses risques, des déchets, de l'électricité. Venez nombreux, nous échangerons après sa présentation. À ce soir.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Cela fait 5 ans que j'attends ce moment. Alors voilà, tous les ans en juin, ma fille râle, car à la télévision, à la radio, on ne parle que des élèves qui passent le brevet des écoles, le bac. Et j'ai un mot pour les apprentis qui passent, des CAP, des mentions complémentaires, etc. Les épreuves de brevet professionnel se passent en ce moment. Avec moi, il y a une pensée positive pour ces jeunes professionnels dont on parle trop peu. Ma fille aura 20 ans le 17 octobre. Elle a un CAP de couverture, une mention complémentaire en zinguerie et passe son BP couverture. Son avenir scolaire était médiocre. Elle travaille depuis 5 ans et devient une bonne professionnelle. Ils font peut-être quelques milliers dans le même cas. Vous en connaissez certainement quelques-uns. Alors parlons-en et soyons fiers de nos jeunes qui se forment en travaillant. C'était Fabienne dans Lyon.
Oui, bonjour Daniel, c'est Franck, chauffeur routier. Les syndicats se plaignent que plus personne ne veut se syndiquer en France. Eh bien moi, je vais te dire que j'ai reçu mon bulletin de salaire. Eh bien, merci la gauche. Qu'ont fait les syndicats pour nos heures supplémentaires? Waouh, rien du tout, quoi. Ouais, le pouvoir d'achat, il en a pris un sacré coup dans la gueule quand même. Aïe, 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 aïe. Alors, continuez à défendre les grosses boîtes. Alors, c'est-à-dire, moi, je peux vous dire, hein, les Continentales, qu'on mettait 2 jours pour vider 12 palettes. Les Moulinex, qu'on mettait 2 jours pour charger. Et ArcelorMittal, que dès que vous rentrez, vous appelez votre femme pour lui dire « Tu sais, chérie, je sais pas si je vais rentrer ce soir. » Alors, continuez à défendre ces mecs-là. Et nous, laissez-nous crever. Laissez-nous crever, mais venez plus vous plaindre que vous avez plus de syndiqués en France. J'en ai marre. J'en ai marre, les gars. Ça peut pas durer. Ça peut pas durer.
Et maintenant, en exclusivité, vous allez entendre les idées du gouvernement pour sortir de l'ultralibéralisme. Eh bien voilà, c'est pas mal, non ?
Merci pour ces messages, cher AMG. En ce lundi, on va aller à Paris. On va se regarder le nombril aujourd'hui. Voilà, ça nous arrive sans doute trop souvent. Mais ça nous a semblé intéressant de se pencher sur notre nombril parisien aujourd'hui pour entendre un bruit nouveau dans cette capitale qui, bien sûr, comme toutes les capitales, se caractérisent par ces bruits, par ces sons. C'est le bruit des valises à roulettes. Oui, ça c'est nouveau. Dans une ville comme Paris, de tous les bruits que cette ville a connus, a engendrés, il y a, depuis quelques années, le bruit des valises à roulettes. 27 millions. Oui, 27 millions, c'est le nombre de touristes qui traversent cette ville, qui y résident quelques jours et qui en repartent, j'espère pour eux, enchantés. Et qui résident quelques jours à Paris et qui résident où ? Bah, dans des hôtels. Ah, pas seulement dans des hôtels désormais. Désormais, il y a, vous le savez bien sûr, des logements touristiques meublés, c'est-à-dire des propriétaires qui louent leurs appartements. Ça peut être un petit appartement, un grand appartement, à ces touristes. Alors ça tombe très bien parce que des touristes il y en a de plus en plus et que notre ville, notre nombril se transforme en musée de plus en plus, en décor dont les vieux Parisiens, pour ceux qui restent encore, deviennent les figurants. Mais ceux qui restent encore, les figurants, partent faute de pouvoir vivre dans cette ville. Embourgeoisement de Paris, gentrification de Paris, c'est un processus qui est engagé depuis longtemps. Et ça pose quand même un problème que cette capitale d'un pays quand même auquel nous sommes un peu attachés soit entièrement bourgeoisée. Embourgeoisée, le peuple s'en va, les jeunes n'arrivent pas à y loger, les enfants n'y sont pas donc présents. Et puis les vieux, on les envoie sur des dépotoirs, à la décharge, dans des maisons prévues à cet effet. Reste, eh ben, c'est bobo, c'est bourgeoisie, bohème, soi-disant, mais surtout bourgeoise, mais exclusivement. C'est assez rare d'arriver à cela, c'est-à-dire, pourquoi ? Eh bien parce que les appartements sont très chers, très 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 chers à l'achat, très chers à la location, et que ce système des logements touristiques meublés accroissent le prix du loyer. C'est le souci de la mairie de Paris. Un certain monsieur Manot, qu'on va rencontrer, Jean-Yves Manot, s'en inquiète et tâche de prendre des dispositions contre ce système des logements touristiques meublés. Face à lui, il a des lobbies puissants et influents. Et il essaye de se battre. Que peut une municipalité pour sa ville ? Dans quelle mesure une municipalité peut refaire de la mixité, refaire du mélange social ? Grande question, grave question de sociologie urbaine, question très ancienne et très importante, même si effectivement il ne s'agit que de notre nombril. Paris valise à roulettes, un reportage de Sarah Lefebvre. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Hey, tu cherches quelque chose à fumer ? T'as du mal à trouver ? Demande aux flics. Allô le 17 ? C'est pour une commande de toche. Allez, salut Daniel.
Oui, eh bien, merci. Merci encore pour cette nouvelle émission. Merci pour le contrat social et la faute à Rousseau. Et merci aussi pour la compétitivité encore qu'entendre le mot aussi souvent m'a vrillé les oreilles et m'a fait me ressouvenir du sketch de Smaïn Président au Petit TV.
Les émissions du diplôme, mais qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon. Et juste après, la publicité de Amama, non, de Matmut. Mais qu'est-ce que c'est naze, mais qu'est-ce que c'est naze. À bientôt, et merci, merci, merci.
Salut Daniel, c'est la Martinique. Lundi 8 octobre à 18h30 au restaurant La Lanterne. Café repère, dont le thème sera ce lundi, l'eau. On va essayer de décortiquer les enjeux autour de cet élément majeur. Nicolas et Christophe se chargent de l'intro, Sophie de l'eau du robinet et Emeline de la vapeur. Lundi 8 octobre au restaurant La Lanterne au Carbet. Ciao, ciao.
C'est Paris, ça?
Oui, c'est Paris.
C'est comme ça, Paris?
Oui, c'est comme ça, Paris. Enfin, ce sera comme ça, quand beaucoup d'essence encore aura coulé sous les ponts.
Jacques Prévert.
C'était mieux avant?
C'était différent. Mais les jolies filles, même si c'est pas les mêmes, sont toujours aussi belles.
Tiens, tiens. Ah, c'est joli, ça.
C'est l'île Saint-Louis.
À Paris?
Oui, à Paris.
Et ça? Qu'est-ce que c'est?
Ça aussi, c'est Paris. La gare Saint-Lazare, en 1928.
Paname, on t'a chanté sur tous les tons, y'a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de quoi donc, Paname. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, soleil a mis son pyjama. Toi tu t'allumes et dans tes bas, y'a Monsieur Haussmann qui te fait pizza. Paname.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Avec Sarah Lefebvre, Paris, valise à roulettes.
Flight number 2, arriving from New York.
Petite photo souvenir. On est au pied de la butte Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est l'un des lieux les plus touristiques de Paris. Et là, il y a plein de groupes qui montent vers le Sacré-Cœur. On va aller demander à ces gens, ces touristes, où ils habitent dans Paris. Bonjour.
Hello.
D'où venez-vous?
London.
Vous venez de Londres?
We are staying near Gare du Nord.
On dort à Gare du Nord?
Hotel.
Dans un hôtel?
Oui.
Combien ça coûte une nuit à l'hôtel?
100 euros. Yeah, per night.
Ok, 100 euros par nuit. Donc une nuit d'hôtel à Gare du Nord pour deux personnes à Paris, donc 100 euros. Hi girls, bonjour. Est-ce que je peux vous demander où vous dormez à Paris?
We're sleeping in an apartment that we've rented in Republic.
Ok, on dort dans un appartement qu'on a loué à République. Comment vous avez trouvé cet endroit?
On the internet.
Sur internet, bien sûr. Vous dormez toutes les quatre dans l'appartement?
Yes.
Combien ça vous coûte alors une nuit dans un appartement à quatre?
For everybody, all together.
For everybody.
Less than 200 euros.
Moins de 200 euros pour quatre personnes. It is big or...
Yeah. 110 meters squared.
Et donc l'appartement fait 110 mètres carrés, c'est géant.
Two bathrooms, two showers.
Deux salles de bain, quatre chambres, deux douches. Mais c'est incroyable.
The kitchen. And the advantage is that we can cook, so we don't have to eat out every night.
Et l'avantage, c'est qu'on peut effectivement cuisiner, donc on n'a pas à sortir tous les soirs, c'est moins cher.
Yeah, because yesterday was our first day and we had lunch out and we had dinner out and we spent a lot of money, so tonight we plan to cook at home.
Hier, on a dépensé beaucoup d'argent, c'était notre premier jour, on a déjeuné et dîné dehors et aujourd'hui, donc du coup, on va faire quelques économies, on va manger à la maison. Thank you very much.
Thank you.
Thank you. Thank you. Bye bye.
Bah voilà, c'est le bon plan de louer un appart à Paris. quand on est touriste. 200 euros divisé par 4, ça fait 50 euros la nuit par personne. Ça revient au même que cette chambre d'hôtel à Gare du Nord, pour deux, à 100 euros, 50 euros la nuit. Mais en plus, on peut cuisiner dans un appartement. Avantageux donc pour les touristes, mais aussi pour les propriétaires. Imaginez 200 euros la nuit, multiplié par 30. C'est le nombre de jours dans un mois, on va dire, en moyenne. 200 fois 30, ça fait 6000 euros de loyer. On comprend mieux pourquoi il y a autant d'annonces de location d'appartements à la nuit sur Internet. Mais par contre, c'est un phénomène que comprend moins la mairie de Paris. Après enquête, ils ont dénombré 20 000 appartements dans la capitale, comme ça. Ça représenterait 8% du parc locatif privé.
Bah ouais, c'est juteux, hein. Bah oui, bah alors, c'est la bonne combine, hein. Vous avez un appartement, deux appartements, trois appartements, au lieu de vous enquiquiner à louer ça à des gens qui restent là-dedans des années et qu'il est si difficile parfois de chasser et d'augmenter, c'est réglementé. Eh bien, voilà, vous avez le meublé qui vous permet déjà de les virer beaucoup plus facilement. Mais là, c'est encore mieux, c'est encore plus formidable, c'est gagnant-gagnant. Vous gagnez, vous, propriétaire, et puis le touriste, ben, il est bien content, ça lui coûte moins cher qu'à l'hôtel. Et puis, il est chez lui, il a l'impression de vivre, de devenir un vrai Parisien, d'être là parmi les autochtones. Ces locations touristiques, meublées, se multiplient un peu partout, à travers le monde et aussi à Paris. On en dénombre environ aujourd'hui 20 000 officiellement, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas déclarés. Ça pose quelques problèmes. Ça pose quelques problèmes, évidemment. C'est des appartements en moins, donc pour les autochtones, pour ceux qui voudraient s'installer dans cette ville durablement, puisqu'il y a moins d'appartements, l'offre est plus réduite et donc les prix augmentent selon la bonne vieille règle de l'offre et de la demande. Ça pose un problème. Ça pose un problème également en matière de logements sociaux. Ça va être évoqué. Et puis ça pose aussi un problème pour cette ville, le sens, la signification, l'âme, la poésie de cette ville, ce qui ressort de cette ville. Paris devient une ville musée, un décor dans lequel un jour les touristes photographieront d'autres touristes et quelques bourgeois, s'il en reste encore quelques-uns qui ne sont pas partis dans leur résidence secondaire au cours du week-end ou qui ne sont pas ailleurs. Paris se vide de sa vie. La ville se vide de sa vie. On le regrette régulièrement. Balzac disait déjà dans Les Petits Bourgeois, hélas, le vieux Paris disparaît avec une effrayante rapidité. On a toujours regretté le vieux Paris d'avant. Bien sûr, la nostalgie est liée à toutes les villes. C'était mieux avant. Et c'est une chanson que moi aussi, comme beaucoup de Parisiens, mais beaucoup d'autres, si souvent, trop souvent. Mais c'est pas pour autant qu'on a complètement tort et qu'on a tort de s'inquiéter du devenir d'une capitale quand même, comme celle-là, j'allais dire capiteuse, oui, capiteuse, capitale, avec ses mystères, avec ses interdits, avec son venin aussi. La ville est une étrange dame dont le cœur a le goût du drame, chantait-on. Et Louis Aragon qui disait « C'est Paris, ce théâtre d'ombre que je porte, mon Paris qu'on ne peut pas tout à fait m'avoir pris, pas plus qu'on ne peut prendre à des lèvres leurs cris. Que n'aura-t-il fallu qu'on me mette à la porte, arrachez-moi le cœur, et je vous verrai Paris. » Magnifique. Écrit en 1942. C'était l'occupation. Je ne compare absolument pas ce temps de l'occupation avec ce à quoi nous assistons aujourd'hui, mais ça pose un problème, et ça pose un problème à nos édiles et à nos élus. Je l'évoquais en commençant, la mairie de Paris s'inquiète de la multiplication de ces meublés touristiques et va essayer d'enrayer, va de l'imiter. On ne sait pas très très bien comment. Voilà pourquoi on va rester ensemble, si vous voulez bien, jusqu'à 15h dans la basse, si j'y suis, pour en savoir avec Sarah Lefebvre un peu plus. Paris, valise à roulette.
Messieurs, dames, il reste encore de la place, on ne se bouscule pas. Eh oui, eh oui, oui, venez voir le grand musée parisien, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors allons-y, allons-y, on approche, il reste encore quelques places devant, mais on ne se bouscule pas, s'il te plaît, toi devant, tu restes tranquille. Merci, allons-y, c'est reparti. Venez voir les Parisiens en sirop musée Grévin. Venez voir les statufiés que l'on peut photographier. Venez voir le jardin Bobo, visiter nos beaux ghettos. Paris, un grand Disneyland, les touristes en redemandent. Paris, musée. Paris, devient un musée. Admirez les vieilles pierres, les vitrines sous réverbères. Venez voir Paris frivole qu'on a plongé dans le formol. Jetez-lui des cacahuètes sur les podiums de la mode. Et venez faire vos emplettes, Paris enlèvera sa robe. Rien à craindre, tout est sécu, un poulet à chaque coin de rue. La vieille dame ne boit que de l'eau, bienvenue à la thalasso. Venez tous faire la fête à la maison de retraite. Une ambiance funéraire dans la grande ville lumière. Paris, musée. Paris, devient musée.
Monsieur Manot, on est ici dans votre bureau qui est en plein cœur de Paris, juste en face de l'Hôtel de Ville. Donc on est place de l'Hôtel de Ville. Vous êtes adjoint au maire de Paris en charge du logement et vous êtes confronté à un phénomène alors qui dure depuis des années, puisque Paris est la ville la plus touristique du monde. Il y aurait chaque année 27 millions de touristes qui visiteraient Paris. C'est 12 fois la population parisienne. Alors, tout ça, finalement, ça crée une énorme demande en termes de logement, tous ces touristes.
Oui, les touristes sont les bienvenus à Paris et nous savons tous que Paris est la ville la plus visitée au monde. Et nous en sommes ravis. Pour autant, nous sommes obligés de faire un constat. Les méthodes d'accueil des touristes ont changé. Et certains, grâce à Internet, ont flairé la bonne affaire en transformant les logements d'habitation classiques discrètement. Et nous nous sommes aperçus que 20 000 logements du territoire parisien s'étaient transformés au cours de ces dernières années. Alors, essentiellement au cœur de la capitale, 4e arrondissement, 5e, 1er, le cœur de la ville, mais nous en voyons également dans le 11e et le 19e et le 18e, tous ces arrondissements qui évoluent avec des côtés un peu branchés qui peuvent intéresser un certain nombre de touristes. Je le répète, je crois qu'il y a des choses qui sont possibles dans la matière à condition de les limiter sur le plan quantitatif. Nous avons 125 000 demandeurs de logements dits sociaux sur le territoire parisien.
Combien parmi ces demandes sont acceptées par an ?
Il y a à peu près entre 12 000 et 15 000 logements qui sont attribués sur le territoire parisien.
Donc c'est moins que ces 20 000 logements dont vous parlez.
Mais en même temps, on ne va pas considérer que c'est 20 000 nouveaux par an. C'est un flux permanent qui ne fait que s'accroître, d'où notre réaction. Je le disais souvent, Paris n'est pas Venise. Et Paris n'a pas la vocation de le devenir.
Alors, du coup, pour vous battre un peu contre ce phénomène, vous avez mis en place un système de veille, en fait. Comment ça marche, concrètement ?
Systématiquement, quand nous avons une information qui nous est remontée soit par un syndicat de copropriétaires, soit par des informations que nous avons captées nous-mêmes sur Internet, que Internet c'est une source d'informations extraordinaire, où ces annonces-là pullulent, eh bien nous sommes capables de découvrir quel est le propriétaire et donc d'écrire pour lui dire écoutez, voilà la réglementation qui existe à Paris. Vous avez 2 mois pour vous mettre en règle et si jamais vous ne le faites pas, sachez que nous engagerons une procédure contre vous.
Mais est-ce que ça suffit, ça, finalement, pour s'attaquer au problème du logement à Paris ?
C'est un fer de lance qui s'ajoute aux autres. D'ailleurs, Paris aura programmé presque 60 000 logements dits sociaux sur le territoire depuis 2001. Oui, nous développons de la pension de famille, du logement d'urgence, mais également du logement pour les jeunes travailleurs à travers des structures de foyers. Nous développons des logements pour les familles. Nous avons donc une politique globale où chaque catégorie de Parisiens a une réponse qualitative mais sans doute quantitativement insuffisante par rapport à l'immensité de la demande. Nous n'avons pas la prétention de régler la problématique du logement de l'Île-de-France à nous tout seuls, mais nous sommes des acteurs volontaristes. Et tout ça pourquoi ? Car personne ne peut nier que le rendement de ce type de produit a entraîné une augmentation du prix des loyers en diminuant l'offre locative, a entraîné une hausse du prix d'acquisition pour quelqu'un qui veut devenir propriétaire, parce que vous avez un rendement nettement supérieur que la location normale. Je pense qu'il n'est pas tout à fait logique et normal que quelqu'un qui loue en meublé des avantages fiscaux de déduction supérieurs à celui qui a un bail normal avec un locataire normal, avec un loyer normal. Et quand vous regardez les annonces aujourd'hui de logements à Paris, vous avez essentiellement de meublé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des avantages fiscaux, parce que vous avez qu'un bail d'un an, rendant de plus en plus précaire le statut de locataire.
C'est quoi là ? 800 euros la semaine, en plein cœur du Marais. Appartement de charme, mezzanine, poutre, pierre de taille, tomette. Il y a même un ordinateur portable à notre disposition. La nuit, c'est 180 euros. Alors, voyons voir, je suis sur le bon coin là. Oui, il y en a un paquet. Même sur PAP, de particulier à particulier, il y a maintenant une spécificité. Pape Vacances, qui loue des appartements meublés à la semaine, à la nuit, au week-end.
Voilà, Sarah est en train de feuilleter parmi les 300 sites internet qui vous offrent des possibilités de louer un logement touristique meublé dans Paris. Il y a des sites qui sont directement en anglais, en chinois, dans toutes les langues. Alors Monsieur Manot, l'adjoint au maire de Paris, est tout à fait, comme il le dit lui-même, un acteur volontariste. C'est un thème intéressant de savoir comment les pouvoirs publics peuvent intervenir dans ce genre de choses. Quel est exactement leur pouvoir ? La bonne volonté, c'est une chose. Le pouvoir réel, c'en est une autre. Voilà, un petit coup de téléphone pour en savoir plus.
Tiens, tiens, des avantages fiscaux pour des propriétaires qui louent en meublé. Eh bien, pour en savoir plus, je vais appeler tout de suite ma conseillère en gestion de patrimoine. Elle a l'habitude, elle, puisqu'elle gère les gros portefeuilles, les gros investissements et les investisseurs. Alors, je l'appelle tout de suite.
Bonjour.
Bonjour, je vous appelle parce que j'ai besoin d'un petit renseignement en matière de fiscalité.
Oui.
J'ai entendu parler d'avantages fiscaux en ce qui concerne les appartements meublés.
Alors, effectivement, la location meublée est en fait une forme de gestion de son patrimoine immobilier qui permet de bénéficier d'un régime fiscal attractif. Puisqu'en fait, dès lors que vous ne dépassez pas un certain montant de recettes, vous pouvez avoir une charge forfaitaire qui permet de déclarer que 50% de vos revenus tirés de la location au titre des impôts. C'est-à-dire que si vous percevez dans l'année 10 000 euros de revenus de la location, en fait, vous n'aurez que 5 000 euros imposables.
Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on loue un appartement de longue durée.
Non, en fait, ce que vous appelez la location longue durée, c'est en fait la location nue. Celle-ci ne bénéficie que d'un abattement de 30%. Donc, l'abattement passe de 50 à 30% dans le cas d'une location nue.
Et les appartements meublés touristiques, ce sont des appartements qui bénéficient exactement des mêmes avantages fiscaux, qu'ils soient meublés pour un an ou meublés de courte durée pour des touristes.
Alors, pas tout à fait. En ce qui concerne les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux ou les meublés de tourisme, l'abattement passe à 71%.
Comment ? Attendez, ça veut dire que c'est plus avantageux encore de louer en meublé touristique qu'en meublé classique ?
Exactement, 71%. C'est-à-dire que, même chose, vous déclarez 10 000 euros au fisc, mais l'abattement de 71% aura pour effet de n'imposer que 2 900 euros, en fait. 10 000 moins 71%, ce qui fait une base taxable de 2 900 euros annuels.
Du coup, cette forme de meublé, qui est quand même particulière, les meublés touristiques, est-ce que c'est quelque chose que vous proposez, vous, de plus en plus ?
Oui, on propose ce genre d'investissement parce que ça rentre aussi dans le cadre d'une diversification et aussi vous avez le côté loisir puisque l'investisseur va pouvoir l'occuper de temps en temps au détriment de la rentabilité, bien sûr, puisque vous aurez une ou deux semaines en moins de loyer annuel, mais ça permet de coupler loisir et rentabilité.
Exceptionnel, deux pièces de charme à Bastille, pas loin du marché d'Aligre. Pour deux personnes, 800 euros la semaine. Il n'y a pas de meilleur endroit pour découvrir et vivre à Paris. Dans une ambiance de village, proche de tout, vous profiterez des innombrables commerces, bars, restaurants du quartier et du célèbre marché d'Aligre. Paraît qu'il y en a plus de 300 comme ça, des sites. Il y a Homely Days. Alors après, il y a des sites spécialisés à Paris. We Paris, Parisian Home, Airbnb apparemment, c'est le dernier dont tout le monde parle, où chacun peut créer son profil et mettre ses petites photos, le prix de son appartement. Ah ouais. Ah voilà, Parisian Home, avec une grosse enseigne. Transaction, rénovation, location, vente, location d'appartements meublés.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Gaëlle Rigoux, je fais partie du conseil d'administration de la PLM, l'association des professionnels de la location meublée.
Ok, alors on va visiter le quartier ?
Très bien.
Alors vous êtes en plein centre de Paris là, c'est incroyable.
On est en plein centre de Paris dans le quartier piéton de Montorgueil.
C'est l'endroit idéal pour venir quelques jours dans Paris ici.
Mais ça c'est certain.
Du coup on va parler de votre métier aussi un peu à travers cette petite visite. Vous faites donc de la location saisonnière meublée. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai tendance à croire que ça se développe énormément avec Internet.
Alors, ça se développe au niveau du nombre d'acteurs, c'est sûr. Et puis, c'est une tendance aussi en France. C'est vrai que c'est quelque chose qui avait l'habitude d'être utilisé à l'étranger. New York fait de la location meublée et les gens ont l'habitude de louer en meublé à New York ou à Londres depuis déjà plus de 50 ans. Paris était vraiment en retard sur cette alternative en fait à l'hôtellerie pour des séjours. Mais une fois de plus, la partie touristique est une petite partie de la location meublée. Il y a beaucoup d'échanges avec les universités étrangères et les gens viennent entre 6 et 9 mois.
Alors les gens qui viennent pour des stages, des formations entre 6 et 9 mois, à combien leur revient par exemple une location ici dans le quartier de Montorgueil à Paris ?
Alors un studio sur une période de 6 mois, j'ai envie de dire qu'ils vont être aux alentours de... entre 1200 et 1600 euros à peu près pour un studio. Et sur
un 20 mètres carrés à peu près.
Grosso modo. Et un deux pièces, on va être entre 1800 et 2400 euros selon la taille de l'appartement.
Et vous voulez dire que des étudiants qui viendraient par exemple d'Angleterre pour étudier à Paris paieraient entre 1200 et 1800 euros un 20 mètres carrés ?
Oui, mais si vous voulez comparer par rapport à un studio en location vide qui doit être aux alentours de 850 euros par mois, on parlait aux informations cette semaine d'un studio de 15 mètres carrés à 650 euros, sur un appartement qui est meublé, ils ont soit l'alternative hôtelière, où bien évidemment ils vont être sur des montants bien plus importants, soit la problématique de devoir déménager tout un ensemble de meubles. Et ça, c'est pas possible pour une période de 6 mois. Donc finalement... le coût d'une location meublée, clé en main, où ils arrivent avec leurs valises, ils peuvent se poser, ils ont du linge de maison à disposition. Je crois qu'on ne peut pas comparer, si vous voulez, une location vide à 850 d'une location totalement meublée à 1200. Et ce que implique aussi, pour une période de 6 mois, un déménagement.
Donc vous vous positionnez quand même sur une clientèle qui est haut de gamme, je dirais, ou touristique, mais n'importe qui ne peut pas dans le monde se permettre de payer ce prix-là.
Je ne pense pas qu'on soit sur une clientèle haut de gamme. On répond à un besoin. C'est vrai que, y compris d'ailleurs pour les touristes, les hôtels sont pleins. Nous, nos clients, entre autres, on a régulièrement des clients qui viennent exposer à Paris sur des salons professionnels. Ils ne trouvaient pas de chambre d'hôtel à Paris. Le comité régional du tourisme, d'ailleurs, a sorti un rapport il y a à peu près une année sur lequel ils expliquent qu'en 2017, il y aura vraisemblablement 25 000 lits manquants à Paris pour répondre aux besoins de l'Office du tourisme et du Palais des Congrès.
Mais alors, comment ils vont faire les touristes ? Ils vont dormir dans des tentes ?
Eh bien oui, mais c'est ce qui s'est passé l'année dernière lors des salons professionnels du mois de mai. Nous avons des gens qui sont venus à l'agence demander un logement. Ils étaient prêts à payer jusqu'à 1000 euros la nuit, ce qui était complètement aberrant, pour pouvoir juste trouver un endroit où dormir. Jusqu'à 50 km à la ronde de Paris, vous n'aviez pas une seule chambre de disponible. Donc qu'est-ce qui va se passer ? À un moment ou à un autre, les organisateurs de salons professionnels vont dire « Paris ne peut pas répondre aux salons professionnels pour les exposants et pour les clients visiteurs. On va déplacer à Madrid, à Barcelone ou à Londres dans des lieux qui sont capables de répondre à cette capacité nécessaire pour loger les gens. Et là, pour la peine, c'est toute l'économie de la ville et quelque part de la France qui en subira les conséquences.
Donc le tourisme est en péril presque plus que le logement, en fait.
J'espère qu'on va trouver un moyen de discuter avec la ville de Paris. On est très ouvert, effectivement, sur des discussions et avec Monsieur Manot.
Petit à petit, béton après béton, on construit implacablement les nouvelles fortifications. On assassine Belleville. On veut faire d'un joli village une belle ville, un belle ville.
On veut faire d'un joli village une belle ville, un belle ville.
La belle ville, une ville sans âme, une ville morte, une ville sans or.
La belle ville, une ville sans âme, une ville morte, une ville sans or.
Non plus des fortifications pour faire fuir l'ennemi. Des fortifications de luxe pour faire fuir le peuple de Paris. On assassine Belleville. On veut faire d'un joli village une belle ville, la belle ville.
On veut faire d'un joli village une belle ville, la belle ville.
Belle ville, une ville sans âme, une ville morte, une ville sans
âme.
Un vieux rappelé et denté, rescapé des halles d'antan. Fait philosophe son baluchon, il n'y aura plus d'accordéon. On assassine Belleville.
Et si notre Paris devenait votre Paris? Alors ça, c'est le slogan d'Anne-Sophie Hébard pour son agence de location saisonnière meublée dans Paris, dans ce quartier d'Oberkampf, dans le 11e arrondissement, en gros entre la place de la République et Belleville, nord-est de Paris. Et on va aller la voir là, elle est dans un de ses appartements et je crois qu'il y a des touristes sur le départ.
Qui marche, il est magnifique à l'intérieur. Je crois que nous on va au dernier étage.
Well, this is the second time that we've used a service like this. Was it 3 years ago, 4 years ago?
Hello.
Bonjour Anne-Sophie Barre.
Bonjour Sarah.
Hello, bonjour.
Bonjour.
Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Steve Oster.
Valerie Oster.
We live in the Boston area in the United States.
Nous vivons à Boston, aux alentours de Boston, aux États-Unis. Combien de temps vous êtes resté à Paris?
3 jours.
Comment c'était?
Marvelous, magnifique. It's very nice to have a place that's like home rather than a hotel.
C'était génial d'avoir un endroit comme ça où dormir, comme une maison.
Oui.
C'est mieux qu'un hôtel. Vous avez l'impression de vivre comme des Parisiens?
You can pretend.
On peut l'imaginer.
Oui, nous aimons le Trois Sceaux.
C'est un restaurant français juste en bas de l'appartement qui est juste excellent.
Biologique.
Que vous leur aviez conseillé.
Je leur avais réservé une table et c'est juste un miracle.
We had dinner there. The service was marvelous.
Nous avons dîné là-bas, le service était merveilleux.
The wine was delicious. The meals,
le vin était délicieux.
Salads,
le repas, les salades.
Cheeses, everything was marvelous.
La viande, le fromage, tout était parfait.
Yes, very French.
C'était très français.
Yes.
Oui. Marvelous, delicious. I had the tartiflette.
Vous avez mangé de la tartiflette?
Oui, oui, oui.
So the French cheese, le fromage français.
Oui, oui, oui. Oh, delicious.
Vous allez revenir?
Bien sûr.
Bien sûr.
I just want to give you a card.
Oh, sure, absolutely, please.
Je veux juste vous donner une carte. Merci beaucoup. Oui, Paris. Et pourquoi oui, Paris?
Pour le nous.
Le nous, notre Paris. Et c'est quoi ce Paris-là? Qu'est-ce que vous aimez, vous, à Paris?
Les petits trucs loin des touristes. Les petits trucs locaux. Ouais, les petits trucs avec une âme. Les petits restaurants avec un cuistot passionné et pas les grandes chaînes. le Paris de quartier, en fait. Donc voilà, c'est de transmettre ça, en fait.
De transmettre ça aux touristes, du coup, qui apprécient ce Paris-là.
Ouais.
Thank you.
Merci. Au revoir.
Bon. Au revoir. Bon voyage.
Bon voyage.
Bon voyage.
Paris. Paris. Paris.
I like Paris.
Pierre-Antoine Mendès, vous êtes, vous, responsable de la FNAIM, donc de la Fédération Nationale de l'Immobilier, c'est bien ça ?
Tout à fait, donc je suis vice-président de la FNAIM Île-de-France.
Et vous êtes aussi agent immobilier ?
Bien entendu.
Vous êtes où, agent immobilier ?
17e arrondissement, à côté de l'Étoile, les quartiers chics. Paris est toute petite ville, contrairement à ce qu'on imagine souvent. Quelques chiffres pour situer les choses. Paris, c'est 105 km², y compris les deux bois.
Bois de Vincennes, bois de Boulogne ?
Bois de Vincennes, bois de Boulogne, tout à fait. C'est 2 200 000 habitants et 1 300 000 logements. Donc c'est tout petit. Londres est 10 fois plus grand. Si vous comparez ça à New York, on doit le comparer à Manhattan. D'accord ? Donc on est sur des choses qui sont vraiment très petites. Donc la rareté fait le prix. Peu de choses à vendre, donc c'est cher.
Donc du coup, c'est normal finalement que tout le monde ne peut pas se loger à Paris.
Alors, j'ai un exemple souvent qui ne fait pas toujours très plaisir, mais vous prenez une jeune personne, garçon ou fille, qui vient d'avoir son permis de conduire et qui vous dit « c'est absolument injuste, j'ai mon permis, je travaille, je ne peux pas me payer de Jaguar ». La première chose qu'on lui répond, c'est « écoute, tu es gentil, tu commences par bosser, faire des économies, et rouler dans une petite voiture éventuellement, et ensuite tu achèterais une voiture plus chère, si tu en as envie ». Paris, je trouve que c'est un peu la même chose. Habiter dans Paris intramuros, aujourd'hui, c'est un vrai luxe. Alors, est-ce que c'est juste ou pas juste? Je ne sais pas. Mais vous demandez à un londonien de bonne CSP s'il est légitime d'habiter dans ce qu'on appelle l'Inner London, ça veut dire que les districts les plus centraux, autour de Westminster, Piccadilly, bah, c'est intouchable. Il vous dira, mais non, je ne peux pas, c'est pas possible. C'est normal d'habiter un peu plus loin. Donc, à Paris, on peut très bien imaginer que ça soit normal d'habiter en première couronne. Pourquoi est-ce un droit d'habiter dans Paris intramuros? Oui, c'est cher, mais le mètre carré est cher lui-même, le mètre carré est rare, il est cher, donc ça donne des loyers chers. Bon,
c'est comme ça, finalement.
C'est la vie.
Donc la vie voudrait que les Parisiens, eh ben, c'est ceux qui peuvent se le permettre, quoi, finalement.
Ce n'est pas une question de mérite, ni une question de travail. C'est qu'il est légitime qu'il y ait des inégalités, il est légitime qu'on lutte contre ces inégalités, et que, par exemple, avec la loi SRU, on assure 20 ou 25% de logements sociaux. Très bien, c'est légitime. Mais cette partie sociale, cette mixité qui est nécessaire et qui est bonne en plus pour la société, n'a pas à être assumée par les propriétaires privés ou les investisseurs. Si la politique d'un gouvernement, d'une commune, d'une région est de faire de la mixité sociale, c'est tout à fait légitime, c'est bien qu'il y en ait, mais c'est à elle de l'assumer. Alors qu'est-ce que vous voulez que fasse l'État ? Qui bloque le prix du mètre carré ?
Qu'on établisse des prix à la vente, des prix à la location ?
Alors ça veut dire que c'est l'État qui définit le prix du mètre carré ?
Ben pourquoi pas ?
Ben ça s'appelle le communisme.
Pardon, messieurs, la place de l'Opéra, s'il vous plaît.
L'Opéra. L'Opéra.
L'Opéra. Je m'excuse de vous déranger, messieurs, mais...
Les petits.
La place de l'Opéra, s'il vous plaît.
Mano.
And you want to see me?
Yeah. Ici, nous.
Le yeah. Monsieur, il connaît ici, l'Opéra, là?
Non.
La place, c'est aussi que ça chante.
Nous.
Hein?
Asseyez, ici, nous.
Vous savez, la... La calasse, là.
What is it?
What did I say?
No, what is it?
Well, invraisemblable, en plein Paris, personne, même pas un agent.
I said, yeah. He said, no. You just say, he said, no.
Where?
Où va la France? Où va la France?
Ah, vraiment, on est plus chez nous, hein?
Paris n'est plus ce qu'il n'a jamais été. Je ne sais plus de qui est cette phrase. Et c'est vrai que dès qu'il est question de Paris, il est souvent question de Paris quand même. Il a été souvent question de Paris dans la littérature, dans l'histoire, dans la peinture. Et à chaque fois, on retrouve ce phénomène de nostalgie qu'avant c'était mieux, avant c'était plus beau, avant c'était plus pittoresque, etc. C'est presque lié à l'histoire... de cette ville et sans doute de toutes les villes. Mais là, quand même, il y a un phénomène, alors celui-là, visible et énorme, qui est l'embourgeoisement de Paris. Et ce que vous appelez la gentrification, très probablement, cher Xavier Capodanno. Je vous ai demandé de venir parce que vous êtes libraire d'une librairie très particulière qui s'appelle Le Genre Urbain, qui est de rue de Belleville, au 60 rue de Belleville. Vous étiez auparavant prof de sociologie urbaine à Nanterre, à l'université de Nanterre, et vous animez, j'allais dire vous agitez cette librairie depuis des années sur ces questions d'urbanisme, entre autres, évidemment, sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, la question de l'embourgeoisement de Paris et la transformation de Paris en ville-musée, en parc à thème, avec une augmentation constante du nombre de touristes qui traversent cette ville, qui font pas seulement que traverser, qui y séjournent, et notamment à travers cette histoire des meublés touristiques qui pose un problème. On compte à peu près 20 000 meublés touristiques dans la ville, et ça a quand même ému les élus de Paris qui entendent lutter contre cette augmentation considérable, dans la mesure où ça transforme effectivement la ville en musée, mais aussi dans la mesure où ces locations, qui sont très rentables pour les propriétaires, c'est autant de logements de moins pour les Parisiens, pour les autochtones, pour les jeunes, enfin pour tout le monde, par rapport aux demandes notamment de logements sociaux. Et la mairie de Paris entend lutter, on se demande comment. Alors, mes deux questions, c'est l'histoire de l'embourgeoisement d'une ville, comment ça se produit, la mixité est-elle possible, les mélanges sont-ils possibles, et dans quelle mesure les pouvoirs publics, le pouvoir politique, peut décider ou infléchir de la sociologie d'une ville.
Effectivement, le processus d'embourgeoisement, pour faire simple, les spécialistes parlent de gentrification, qui est un mot anglais, pour dire un peu comment une sorte de classe populaire ou moyenne accède à des niveaux supérieurs grâce à la force du territoire, d'ailleurs. C'est une lame de fond qui a lieu depuis bientôt une quarantaine d'années. Et pour ce rapport pouvoir public, je dirais pouvoir du citoyen en termes d'équilibre, globalement, on a trois processus ou trois niveaux de ségrégation. On a la réalité, je dirais, économique. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse accéder ou pas à des logements, à la ville? Vous avez les moyens ou pas de vous payer un appartement? Un autre filtre va apparaître, c'est le filtre politique qui, lui, dans ses choix stratégiques, va essayer de mettre en place une politique plus ou moins importante de logement social. En fonction des populations qu'il a à sa disposition, en fonction de ses choix électoraux, enfin, il y a plusieurs paramètres qui vont jouer. Et on peut évidemment plus ou moins modérer, soit à la marge, soit en profondeur, tout dépend des périodes, de voir comment on peut organiser une forme de mixité sociale. Et puis, vous avez l'autre point qui fait que c'est nous, en tant qu'habitants, de part de nos actions, de nos pratiques, de la façon dont nous vivons dans la ville, eh ben, nous aussi, nous produisons la ségrégation. Et c'est là que ça devient très compliqué. C'est là où les pouvoirs publics ont beaucoup de mal à intervenir, parce que souvent, ils sont pris à leur propre piège. C'est-à-dire que quand on essaye de rehausser le niveau social d'une ville, effectivement, après les habitants qui sont là, ben, la conséquence classique, c'est que si on veut augmenter le niveau social, les habitants qui vont occuper les quartiers qui vont être désignés, ils n'ont pas envie d'avoir des prolos autour d'eux. Donc, vont créer les conditions par leur pratique de vie pour maintenir ce niveau-là. Et le paradoxe de la situation, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être majoritaire en volume de population pour avoir le pouvoir sur un territoire.
27 millions de touristes passent à Paris chaque année, dont 18 millions d'étrangers, parce que sur les 27 millions, y a des Français qui visitent leur capitale. Je me souviens, et vous vous souvenez sans doute d'un film qui s'appelait Un Américain à Paris, absolument, avec Jane Kelly, et qui découvre un Paris en partie imaginaire, mais la façon dont les Américains, les États-Unis, nous voyaient à cette époque, c'était un Paris pittoresque, artistique, etc., mais un Paris populaire, un Paris populo. Ce Paris populaire s'évanouit, disparaît totalement. Aujourd'hui, dans le centre de Paris, on voit plus de jeunes couples ni de vieux, parce qu'il y a une ségrégation générationnelle qui s'ajoute à la ségrégation sociale. Dans quelle mesure la mairie de Paris, qui a l'air pleine de bonne volonté, je pense à M. Jean-Yves Manot, qui est adjoint au maire de Paris, peut-il réellement agir ?
un de mes amis que je vais citer, qui est un grand chercheur au CNRS, il s'appelle Jean-Pierre Lévy, grand spécialiste du logement, qui est au Centre de recherche sur l'habitat, me disait un jour, dès qu'on parle de quartier populaire, c'est déjà foutu. Maintenant, on est confronté, j'ai beau le tourner dans tous les sens, moi, mais à un vrai choix politique. Est-ce qu'on veut maintenir des gens populaires dans les quartiers populaires? Je ne suis même pas dans l'idée de se dire qu'il faut réintroduire des gens. Et je crains qu'on dise, réponde non, parce que ça devient de plus en plus difficile. Et les élus, surtout parisiens, ont laissé échapper, mais pas nos élus actuels, hein, ça fait bientôt 20 ans ou 30 ans, laissé échapper au marché un certain nombre de réalités urbaines, aux promoteurs, à des sociétés d'économie mixte, qui avaient sûrement leur légitimité et leurs besoins techniques sur le moment, mais qui au final maintenant sont complètement dépassés. Et je ne vois pas comment l'élu au logement, M. Manot, si sympathique soit-il, si volontaire soit-il, peut inverser la tendance.
Et pourtant, si on regarde à grandes enjambées l'histoire de Paris, disons, depuis Haussmann, pour ne pas remonter trop loin, on voit que très souvent, les pouvoirs publics sont intervenus pour décider de l'orientation des logements, des constructions. Est-ce qu'on peut retracer un peu à grandes enjambées
absolument.
Cette histoire-là?
En plus, l'interventionnisme en termes d'urbanisme et de logement en particulier, on était dans un projet républicain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, du même principe que l'école, un accès de ce qu'on peut appeler des biens évidents pour tous. C'est-à-dire qu'au moment de la reconstruction, globalement, il y a eu la période des HBM, c'est-à-dire les années 20, après la Première Guerre mondiale.
C'est-à-dire ces immeubles en briques rouges qu'on voit sur les
boulevards des Maréchaux. Où il y avait de l'autre côté la fameuse zone qu'on appelait, c'est ces bidonvilles interminables. Donc tous ces hygiénistes, on s'est dit, il faut quand même des logements. Mais ce n'était pas pour n'importe qui. En fait, le logement en France n'a jamais été pensé pour les pauvres. Globalement, ça a été toujours pensé pour les ouvriers qui avaient un salaire. Ça, c'était la thèse d'Henri Sellier, un des pères fondateurs du HBM, qui est devenu après les HLM. La Deuxième Guerre mondiale arrive, reconstruction obligatoire. Donc effectivement, la France est en ruine, il faut reconstruire coûte que coûte. Et effectivement, on a eu une crise de logement qui a duré près de 30 ans, jusque, on va dire, milieu des années 80. Mais à partir du milieu des années 80, début des années 90, globalement, des logements, il y en a à peu près pour tout le monde. Sauf qu'entre-temps, c'est devenu un objet de spéculation. Et automatiquement, ça rentre dans la grande moulinette du système capitaliste. Et là, ça échappe de plus en plus au pouvoir public. On a laissé échapper le foncier, globalement, aux acteurs privés. Et à partir de là, revenir en arrière maintenant, quand on est un acteur public, Paris peut vaguement équilibrer, mais une ville de 200 000, 300 000 habitants n'a pas les moyens, mais vraiment financiers, les moyens politiques de lutter contre ces énormes groupes qui sont les filiales des Bouygues, des banques, les Natexis, les BNP Real Estate, qui, eux, ont le foncier. Ils ont la trésorerie, ils ont les moyens d'attendre, et ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie. Ils sont là pour gagner de l'argent sur de la rente. Et on est en train de faire une ville de rentiers.
Et pourtant, si on vous écoute, vous et d'autres, on peut loger tout le monde à Paris. Il y a énormément de logements vides, il y a de la place. On est 2 200 000 habitants dans cette capitale. On ne parle pas encore du Grand Paris, mais on a de la place dans Paris.
Je ne sais pas si on peut loger tout le monde, on peut loger une très grande majorité de gens qui n'ont pas de logement. Ça, c'est évident. On sait très bien qu'on n'est pas dans un problème du logement. Les logements, ils existent. C'est un problème d'accès.
Merci à tous. C'était Paris, valise à roulettes, un reportage de Sarah Lefebvre. Merci à Jean-Yves Manot, Gaël Rigou, Anne-Sophie Aybar, Sylvie Cachaner, Pierre-Antoine Mendez et Olivia Dupont et puis Xavier Capodanno que vous venez d'entendre. On donnera toutes les coordonnées de sa librairie sur le site de France Inter à la rubrique émission de là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur le site labas.org et puis on peut se retrouver également sur les pages Facebook de l'émission. Au passage, je vous conseille de relire ou de lire Mike Davis, non pas Miles Davis, mais Mike Davis, l'urbaniste américain que vous connaissez sans doute, on l'avait rencontré à San Diego. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Yann Bouillot, montage Antoine Chao qui a assisté Sarah Lefebvre. Cette émission a été réalisée par Lucie Acoun et Chloé Sanchez et préparée par Pierre-Yves Buteau. Solène Cordier, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Tu sais, papa, j'ai appelé le 30-25 pour préparer ma retraite avec Préfonds Retraite, le spécialiste de la retraite des agents de la fonction publique.
Déjà ?
Il n'y a pas d'âge pour bien préparer sa retraite. D'ailleurs, tu devrais t'y mettre.
Non, tu as raison. En plus, avec Préfonds Retraite au 30-25, l'appel est gratuit depuis un poste fixe.
Chérie, tu sais qu'en tant que fonctionnaire, on a aussi droit aux chèques vacances ?
T'es sûre ?
Mais oui, les chèques vacances, c'est pour les fonctionnaires autant que pour les salariés. C'est valable pour toutes nos vacances et pour nos loisirs. Il suffit de les demander.
Ok, je sors les valises.
Pour vous, fonctionnaires, l'État élargit les conditions d'accès aux chèques vacances. Rendez-vous vite sur ancv.com pour calculer votre pouvoir d'évasion. C'était un message du ministère de la fonction publique et de l'ANCV.
Si t'es fier de ta région,
aime ton héros.
Si t'es fier de ta région,
aime ton héros.
Si t'es fier de ta région,
si t'es fier de ta région, aime ton héros.
Les euros des régions de la Monnaie de Paris sont de retour. Pour découvrir la nouvelle pièce de 10 euros en argent de votre région, rendez-vous dès maintenant dans les bureaux de poste participants.
C'est sympa de revoir les anciens du lycée. T'as vu Marc ?
Ouais, il a monté sa boîte. Mais comme tout le monde, il cherche à faire des économies.
Qui m'appelle ? Je suis conseiller EDF Entreprise. J'aide les entrepreneurs à optimiser leur budget énergie pour faire des économies. On choisira ensemble des solutions énergétiques efficaces pour améliorer la performance de son entreprise.
Entrepreneur, rendez-vous sur edfentreprise.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter et le Théâtre de la Ville, avec le Festival d'automne à Paris, présentent les 13 et 14 octobre Angela Winkler dans un récital de chansons inédits en France. Après avoir incarné Jenny dans l'opéra de Gatsou, puis Lulu dans la mise en scène de Bob Wilson avec le Berliner Ensemble, la célèbre actrice allemande fera revivre des succès de Barbara et du Berlin des années 20, accompagnée de trois musiciens. Retrouvez Angela Winkler dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Que renaisse le chant que les oiseaux imitent et qui répond Paris quand on dit liberté. Voilà. Louis Aragon, 1942. Paris. Il va être 16h sur France Inter. La preuve, les voilà, les 16h. On se retrouve demain à 15h pour la base, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Martine Aubry sera entendue début novembre par un juge. L'ancienne première secrétaire du Parti Socialiste pourrait être mise en examen dans l'affaire de l'amiante. Au juge, elle répondra en sa qualité d'ancienne directrice des relations du travail au ministère du même nom entre 1984 et 1987. L'armée turque a une nouvelle fois riposté aujourd'hui à la Syrie. Elle a tiré sur des positions militaires syriennes. Cela fait suite aux tirs d'obus sur le territoire turc la semaine dernière qui a coûté la vie à 5 civils. Sur le terrain en Syrie, l'armée du régime cette fois a bombardé aujourd'hui les bastions rebelles à Alep et à Karak dans la province de Dera. Dans cette dernière ville, 23 personnes ont été tuées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le problème de la compétitivité en France n'est pas le seul fait du coût du travail. Louis Gallois, l'ancien patron de ADS, en est certain. Il l'a dit aujourd'hui lors d'un entretien avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Selon Louis Gallois, il faut prendre en compte les aspects financiers, de structure, d'organisation. La question aussi est de savoir comment faire grossir les entreprises de taille moyenne. Louis Gallois doit remettre son rapport sur la compétitivité le 5 novembre prochain. Pour améliorer justement la compétitivité, Arnaud Montebourg propose lui aujourd'hui de diminuer les cotisations sociales des entreprises en contrepartie d'investissements productifs. Le ministre du Redressement Productif s'exprimait en marge d'une visite à l'usine de la Française de Mécanique de Douvrin dans le Pas-de-Calais. Qu'on se le dise, les Chinois aiment l'Armagnac. Le bureau interprofessionnel de l'Armagnac, le BNIA, vient d'annoncer les chiffres de 2011. Pékin a importé 935 hectolitres l'an dernier, soit quasi 8 fois plus qu'en 2010. La Chine est donc devenue le premier pays importateur d'Armagnac. Les explications de Pierre Tabarin, le président du BNIA.
D'une part, il y a une volonté politique des autorités chinoises de développer le vin et les produits à base de vin, parce qu'ils souhaitent conserver le riz, non pas pour l'alcool de riz, mais pour l'alimentation de leur population. Ensuite, il y a bien sûr la croissance chinoise qui fait émerger une classe moyenne de plus en plus importante, qui est attirée par des produits nouveaux, et notamment des produits français, en particulier les produits français liés à la gastronomie. Et puis, dernier point, bien sûr, essentiel, c'est que les maisons d'Armagnac sont de plus en plus nombreuses à aller en Chine. Il y a 3 ans, il y en avait 2, maintenant, il y en a 12, et que leur action commerciale, eh bien, donne de bons résultats.
Des propos recueillis par Gilles Gauthier de France Bleu Gascogne. Dans le procès dit des tournantes devant les assises du Val-de-Marne, 5 à 7 ans de prison ont été requis aujourd'hui par l'avocat général contre 8 des 14 hommes accusés de viol. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie versera près de 16 millions d'euros au projet visant à développer les infrastructures de recharge adaptées pour les voitures électriques. L'ADEME dit aujourd'hui avoir reçu, ou plutôt avoir retenu 7 projets, parmi eux Télé-Watt qui travaille un système de recharge à partir du réseau d'éclairage public. Enfin, la robe de Dorothy, l'héroïne du magicien d'Oz, interprétée par Julie Garland, va être mise en vente aux enchères. D'après le commissaire Priseur qui l'annonce aujourd'hui, c'est la seule version que l'on voit dans le film de 1939 encore intacte. Elle est estimée aujourd'hui à 1,5 million de dollars et elle sera vendue aux enchères les 9 et 10 novembre prochains à Beverly Hills. Qu'on se le dise, vous écoutez France Inter, 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Nous enregistrons en public dans le Loir-et-Cher, aujourd'hui lundi, à la Chaussée Saint-Victor. Rendez-vous à 18h30 et demain mardi à Couture-sur-Loire, toujours dans le Loir-et-Cher, également à 18h30. À très bientôt.
Excusez-moi, mais il n'y a personne pour leur dire d'arrêter, là.
Oui, non.
Attends. Si ça continue, ça finira jamais. Hein.
Oui, enfin, en tout cas, il paraît que les informations, c'est pas vrai.
Et ils inventent tout ça juste pour qu'on écoute.
Alors ?
Et vous, vous en pensez quoi ?
France Inter, la voix est libre.
Allez, Frédéric Ledéan, c'est reparti pour la semaine, c'est à vous.
Mais oui, mais elles sont vraies, vos informations ?
Mais oui, elles sont vraies.
Je garantis, Laetitia.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. D'abord, je veux féliciter tous les passionnés de musées en musique de Grenoble. Hier, c'était formidable. Tocade, c'était le nom de cette manifestation. Caprice, donc, une journée, un anniversaire, 4 concerts, 25 ans de présence, des très beaux artistes. Il y avait Fanny Clamagira en violon, Adam Laloum qui a joué 2 fois d'ailleurs, Sonia Vider-Atherton, Bruno Fontaine, Sonia Vider-Atherton qui a joué sublimement aussi. Et puis, il y a eu la remise du prix du public. Et un jeune violoniste que je vais citer tout à l'heure. Et bref, c'était joyeux, c'était formidable, parce qu'on parle beaucoup de Grenoble en termes quelquefois inquiétants ces temps-ci, mais je peux vous dire qu'il s'y passe des choses aussi exceptionnelles. C'était hier un musée en musique, 25 ans, bravo, continuez, bravo à Pascal Galliard aussi. Et nous avons un coffret qui va nous accompagner cette semaine, c'est La Fausse Jardinière de Mozart, un opéra fort peu connu. Quand on dit un opéra de jeunesse pour Mozart, évidemment c'est un pléonasme, parce qu'il est mort à 35 ans, 3 quarts, donc c'est forcément un opéra de jeunesse. Mais enfin là, c'est un début, un essai, mais qui avait été perdu, qui a été retrouvé. Et cette Finta Giardiniera, je vous en propose tout de suite l'ouverture, c'est une version vraiment magnifique, bien menée par René Jacobs, avec son ensemble baroque, Freiburger Baroque Orchestra. Thank you. Un peu de la Finta Giardiniera, l'ouverture donc de Mozart, interprétée par l'orchestre baroque de Freiburg en Allemagne, dirigée par René Jacobs. Et voici maintenant l'introduction, le quintet d'ailleurs, c'est plein de joie, mais il y a quand même quelqu'un qui va se plaindre. Tous se chantent, quel jour fortuné, quel contentement, tout autour de nous respire la joie et l'amour en fête.